France Inter.
13h22 sur Inter, CO2, mon amour. Bonjour Denis Chessou, vous êtes dans les jardins de Georges Sand aujourd'hui ?
Bonjour Éric Delvaux, eh bien oui, une femme visionnaire et libre, et on va la rencontrer dans son Berry, dans son jardin de Nohant. Et on vous retrouve à 19h. Bon après-midi Éric.
Merci, à tout à l'heure.
Ça, vous avez de la chance, hein. Et les petites poulettes, elles ont bien pondu, hein. Habiter sur une île, ça c'est le rêve.
Hein. CO2, mon amour.
Il y a le bon air, hein, ça. Mais vous vivez comme ça toute l'année.
Je ne comprends pas l'énoncé de la question, là.
Non, vous ne travaillez pas.
Ah, certainement pas, parce que le travail, pour moi, c'est la dégradation de l'homme libre.
Avec Denis Chessou.
Oui, enfin, il faut bien un peu d'argent pour vivre, quand même.
Je suis pour l'abolition de l'argent.
Et le chauffage, l'électricité, il faut bien la payer.
Ben, je suis directement branché au poteau de l'EDF. Ça évite les factures. Et l'hiver, ben je me chauffe au vin. Voilà.
Sur France Inter.
Et même l'été, d'ailleurs.
Eh ben voilà, c'est presque une solution écologique. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir dans CO2 Mon Amour, la nature qui chuchote à vos oreilles, avec Ludovic Asselot à la technique, Camille Blanès et Xavier Pessugia réalise l'émission. Et donc avant Georges Sand, allez, une petite humeur. C'est une histoire d'eau, c'est une histoire de vie. C'est la vie des grands fleuves qui sont pris à la gorge en été et qui sortent de leur lit en hiver. Alors moi, la Garonne, comme mes amis, la Loire, la Maine, la Charente, eh ben je suis désolé de recevoir autant d'eau, de collecter les gouttières et rivières du ciel depuis des semaines. En été, souvent, je mendie de l'eau. Et là, je remercie EDF, hein, ces barrages, de m'offrir de quoi remplir mon ventre toulousain, d'avoir de l'eau à tous les étiages. D'ailleurs, bien régulé par l'établissement public Garonne, Gascogne, Pyrénées. Alors, essorer, éponger les terres et le ciel, bon, en hiver, faut pas m'en vouloir, parce qu'en fait, je ne me retiens plus. Alors je déborde, je visite les caves et les étages des maisons du Lot-et-Garonne, de Gironde. Et chacun veut sa maison, c'est normal, c'est son rêve. Les préfets, les maires ont signé des milliers de permis de construire dans mon lit en zone inondable depuis très longtemps. Les assurances savent qui paiera le trop. Je ne suis pas heureuse hein, quand je vois vos détresses, vos économistes noyés. Mais ne m'en veuillez pas, je fais mon métier d'eau. Je serai plus forte que vous, que vos digues mal entretenues. Alors il faut savoir lire et écouter les fleuves. Et surtout, sur mes bassins versants, il faut ralentir l'eau en amont. Trop de haies arrachées, de sols malmenés, moins de béton, de bitume, de terriers habités. Il faut des sols vivants. Il faut laisser la vie. Prendre la main de la nature, ne pas chercher à creuser davantage mon lit. Alors je suis belle depuis l'Espagne. Un beau département a pris mon nom, la Haute-Garonne. Et 525 km plus bas, je découvre Bordeaux, l'estuaire, la Dordogne, l'Atlantique. J'aime quand les aloses, les saumons, les anguilles remontent mon courant. J'aime à Toulouse, avant le pont Neuf, entre la prairie des filtres et le quai de Tunis. J'aime siffler des notes de Claude Nougaro. Et puis je file de l'eau. Canal du Midi à qui j'offre une part de mes eaux. Puis, non loin de Golfech, on me dira « Sur ta route, tu n'as pas de barrage, mais tu as un péage. Viens me réjouir, viens fabriquer mes panaches de fumée, viens me refroidir, viens te nucléariser. » Oui, dans ce monde en chaleur, les ciels d'hiver fabriqueront plus de nuages, de gouttes d'eau. Oui, notre terre jolie, l'atmosphère se réchauffe, car on a remis ces histoires de CO2 avec ou sans amour sous le tapis. Ah, on ne s'est pas précipité face aux précipitations. Vous avez dansé ? Eh bien, nagez maintenant. Le monde entier veut développer, consommer, réchauffer, vendre, acheter, guerroyer entre humains ou contre le vivant et surtout de modèle ne pas changer. Et moi, je fais mon métier d'eau. Alors sans vouloir de mal, je m'étale d'un mot en aval, j'avale. Quand je passe à Agen, Michel Serres me regarde avec sa voix d'enfant qui disait « Je vais à Garonne, je vais à Garonne. » Car oui, je ne suis pas qu'un fleuve, je suis une personne. Inondation de vos excès, de vos imprévoyances mondiales, les chabotés font le gros dos. Mais là, là, regardez, dans le ciel pâle, un soleil qui sourit, une éclaircie. Et moi, je fais mon métier d'eau. » Alors c'est Georges Sand qui nous attend donc pour ce hors-série, donc vous pouvez d'ailleurs réécouter si vous le souhaitez hein, sur l'application Radio France, Giono, Colette, Rousseau, Vinci, Van Gogh, Cézanne et la nature, j'en oublie encore. Là c'est Georges Sand et la nature qui nous attend au bord de l'Indre. La perle a une perle de rosée, de nuages, de gouttes, en tout cas une perle de Rosalia. Et maintenant, nous partons dans l'Indre, les deux pieds dans le jardin de Georges Sand.
On va passer sur le jardin couvert. Et alors, le jardin couvert, c'est vraiment la théorie de Georges Sand, de ce jardin en mouvement. C'est-à-dire qu'elle va créer l'illusion, comme ça, dans cette partie boisée, d'un jardin romantique où il fait bon se perdre. Et puis, quand même, elle était fascinée par le voyage. Hein. Georges Sand, c'est aussi pas quelqu'un qui est resté comme ça en Berry. Elle a énormément voyagé. Et elle ramenait des espèces comme les ginkgo biloba, l'arbre où il est cul, qu'elle a ramené et qui ont été plantés par elle. Et puis aussi des noyers d'Amérique. Elle a fait venir des essences qu'on ne connaissait pas ici. Oui. Et donc le jardin est aussi le lieu du métissage. Et notamment, elle cultivait des ananas dans sa petite serre. Et elle envoyait le jardinier les vendre sur le marché de la Châte. Personne ne les achetait.
Ah non.
Parce que d'une part, l'ananas, on ne connaissait pas trop. Puis venant de chez Madame Sand,
oui. Ça pouvait être un peu sulfureux.
Voilà.
Il me fallait la rencontrer. D'abord la petite Aurore Dupin, puis la grande Georges Sand. Voir, respirer son jardin de Nohant, sa région qui ne s'appelait pas encore Centre-Loire, d'ailleurs à qui on pourrait rajouter Berry. Hein. Nous sommes bien dans l'Indre, Valençay est au nord, parc naturel de la Brenne, et au sud-est de Châteauroux, le pays de Georges Sand et le bois chaud qui n'est pas loin. Alors pourquoi la rencontrer ? Alors au-delà des 150 ans de sa mort, hein, 1876, cette année, le département de l'Indre va encore plus la saluer, mais pourquoi la rencontrer ? Déjà pour tuer cette image volontairement réductrice de la bonne dame de Nohant, écrivaine régionaliste. Ça, ce sont les conservateurs misogynes qu'elle dérange et qu'elle a dérangé qui veulent la mettre dans cette boîte. Cette première femme, journaliste, courageuse, a médiatisé la première ZAD. Oui, c'était la forêt de Fontainebleau, défendue par Théodore Rousseau et ses amis peintres. Et on va y revenir. Elle était républicaine, féministe, libre. devant beaucoup écrire aussi pour assurer son indépendance financière. Alors quand on se promène dans cette commune de Nohanvic, vous avez la rue de la Petite Fadette, vous avez la rue Balzac, vous avez la rue de la Mare au Diable, la rue Chopin, ah bah oui, il a quand même écrit la majorité de ses grandes œuvres, Frédéric, à Nohan. Alors vous avez entendu là en introduction Georges Buisson, qui est l'ancien administrateur du domaine de Nohan, qui a écrit aussi un très bel ouvrage, Georges Sand en ses jardins. Et puis là on va trouver Annick Dussault, qui est membre des amis de Georges Sand et qui va nous poser le décor.
La Vallée Noire, voilà, c'est ce panorama qui donne cette impression presque d'infinité boisée, ouais, avec un horizon un peu vert, bleuté. Et en fait, c'est un paysage de bocage. C'est des chambres coupées de haies et puis avec des grands arbres, des chênes.
J'allais dire coupées de haies qu'on n'a pas coupées, fort heureusement.
Hein, alors, on a encore la chance d'avoir un bocage relativement bien préservé. Et donc... Bon, on doit à peu près avoir le paysage que Georges Sand avait sous les yeux, peut-être des un petit peu plus denses.
Ouais. Et alors, elle quittait Nohan, donc, assez régulièrement, et puis elle partait autour. Quoi, donc c'est ça.
Voilà, en fait, depuis son enfance et surtout son adolescence, elle monte à cheval, donc elle part avec sa jument Colette, et puis elle se balade et elle découvre toute cette région. Et j'allais dire, elle engrange, elle dessine, elle se souvient de tous ces paysages, tous ces lieux, qui évidemment, par la suite, eh ben, on va retrouver dans ses romans. Mais cette Vallée Noire, c'est vraiment son territoire. À la fin de sa vie, elle disait que la Vallée Noire, c'était presque comme un vêtement, un autre moi-même. Donc on voit vraiment le lien très intime entre cette région, ces paysages qui sont très marquants, et puis cette personnalité.
Le nom de Vallée Noire, c'est elle qui l'invente ?
Oui, et je crois que c'est une des rares régions en France dont le nom est vraiment sorti de l'imaginaire d'un écrivain. Parce qu'un géographe parlerait plutôt du Bois-Chaussu. Enfin, et puis on est à la limite géographique entre la fin des plateaux calcaires du bassin parisien et puis le début
du Massif Central.
Voilà, hein, ouais. Ça commence un petit peu à vallonner. C'est ce qui donne aussi du charme à cette région.
On quitte le calcaire pour aller sur le granit.
Voilà. Hein. Et puis entre deux, bah, on a l'Indre et puis tout un tas de petites rivières qui viennent irriguer et verdir, j'allais dire, cette région.
Et alors, le noir, donc, cet adjectif, cette couleur donc...
Elle dit que, par beau temps, c'est bleu, vert foncé, avec les arbres, les haies, l'herbe, les prés, etc. Et que dans les jours d'orage, ça tourne au violet et au noir.
Ah, alors, entrée... Dans le domaine, chez Georges Sand. Bonjour à vous, Georges Buisson.
Bonjour.
Ah, on est ravis parce que là, on rentrait dans les 6 hectares en fait, de son jardin ici à Nohan, c'est ça ?
Absolument. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ce jardin reflète totalement la philosophie de Georges Sand.
Ah, oui.
Il est resté en l'état tel qu'elle a souhaité qu'il fût. Il y a deux parties au jardin. Il y a la partie découverte, dans laquelle nous sommes. Et tout à l'heure, nous irons dans la partie couverte, ce qu'elle appelait son petit bois romantique.
Ah, oui.
Alors, la partie découverte, c'était le jardin vivrier. Donc, c'était organisé autour de cette grande allée que nous empruntons. Et à l'entrée du domaine, cette petite roseraie miniature qui a été plantée par Madame Dupin de Franqueuil, la grand-mère de Georges Sand, pour donner une petite touche 18e à l'ensemble. Et donc, il y a tout un tas de rosaces entourées de buis, avec des roses anciennes qui ont été replantées l'an dernier, des roses du 19e siècle, tout un tas de variétés. Georges Sand adorait les roses.
Alors, cher monsieur, vous volez mes roses. Vous volez mes roses, qui sont ce que j'aime le mieux au monde. Vous jouez de malchance, car vous pouviez tout prendre chez moi, sauf mes roses. Il se trouve que ce simple vol mérite la mort.
Monseigneur, je ne savais pas. Je ne croyais offenser personne en cueillant ces roses pour ma fille qui m'en avait demandé une.
On ne dit pas, monseigneur. On dit la bête.
Alors, faut imaginer quand même, Georges, cette gamine. Bon, 4 ans, 13 ans, là c'est le paradis pour elle.
C'est le paradis pour elle.
C'est le paradis. Sa mère quand même lui raconte le chant des oiseaux, lui dit eh, « tiens, va soulever des pierres, etc. » Donc toute l'imprégnation d'enfance se fait là.
Se fait là. D'ailleurs, cette mère avait fait aussi une grotte de verdure dans des massifs de lilas et d'aubépine, dit Georges Sand, où elle avait installé un banc et c'est là qu'elle venait avec sa mère apprendre ses leçons, ouais, etc. Donc le jardin, c'est aussi le lieu des retrouvailles, le lieu de l'activité. Ce jardin, au temps de son enfance, elle avait fait une petite grotte de verdure dans laquelle elle avait inventé un petit personnage qui s'appelait Corambé, qui était une sorte de dieu de la nature. Et donc, c'était un endroit secret pour elle quand elle était toute petite fille. Et donc, déjà, ça donne à ce jardin une sorte de sensation d'appartenance incroyable.
Et elle faisait des offrandes ou quoi ?
Alors, elle faisait des offrandes à l'envers. Au lieu de tuer les animaux, elle capturait des oiseaux qu'elle faisait envoler, des papillons, des insectes qui partaient. Et puis, sur la gauche, un immense potager, hein, qui était à l'époque en totale activité, parce qu'on vivait en autarcie.
Et puis il y avait du monde, hein, quand même, qui venait. Table pleine, hein, quand même. Hein.
Voilà. Donc l'immense potager, le jardin bouquetier. Alors ça, c'est très important, parce que Georges Sand aimait beaucoup les fleurs. Et donc, quand Delacroix vient ici, elle ramasse des bouquets qu'elle emmène dans sa chambre, et Delacroix peint le bouquet de fleurs, parce qu'elle l'a convaincu d'abandonner les grands sujets académiques pour se consacrer à la nature. Donc le fameux bouquet de fleurs est au Metropolitan à New York maintenant, mais il a été peint à Nohant.
Ce qui est formidable, c'est de se dire que nous sommes dans ce lieu où elle développe dans son enfance ce qui a fait sa force d'écrivaine, c'est-à-dire un amour sensuel de la nature et puis une connaissance très concrète de la vie paysanne.
Ah bah oui, parce que l'éducation de Georges Sand repose sur l'éducation qu'elle se donne à elle-même, on dirait aujourd'hui éducation populaire, c'est en poussant la petite porte qui sépare la maison de la ferme et du jardin, et là elle est en relation avec la nature, elle est en relation avec la vie. Donc elle se forge comme ça elle-même, avec ses petits copains paysans, tout ça, une réalité sociale qu'elle n'aurait jamais eue si elle ne l'avait pas fait, quoi. Ouais. C'est fascinant.
Une chose m'étonne en vous. Vous semblez nourrir des sentiments républicains.
Je suis républicaine depuis l'adolescence. Mmh. Et amie du peuple par hérédité maternelle.
Bravo, bravo. Mais comment se manifeste votre amour de la liberté? Comment utilisez-vous les forces que l'on devine en vous? Des phrases. De belles phrases, certes, mais des phrases tout de même.
Des phrases qui posent des questions.
Georges Sand, tu t'entêtes à ignorer les nécessités politiques. Admets-tu l'égalité des biens, oui ou non?
Oui, mais je la conçois comme une participation au bonheur.
Sa grand-mère lui a transmis la philosophie des Lumières.
Alors ça, faut en parler quand même de sa grand-mère, parce qu'elle l'a quand même éduquée. Elle a un peu séparé de sa mère, quand même.
Oui, c'est-à-dire qu'elle considérait qu'il fallait quand même donner à Georges Sand l'éducation qu'elle était censée avoir.
Ouais, c'est ça.
Parce que Georges Sand, ce qui est fascinant, c'est qu'elle a cette double origine. Hein, l'origine aristocratique du côté du père.
Et paysanne.
Plébéienne, disait-elle, du côté de sa mère.
Ouais, hein.
Et donc, c'est cette rencontre-là qui a été rendue possible par la Révolution française, et donc Georges Sand va toujours se positionner du côté du plébéien, hein, contre les rois et les suppôts, disait-elle.
Ah ouais.
Et donc elle aura toujours cette volonté-là, elle aidera les poètes prolétaires, et donc elle va garder ça. Mais en même temps, elle est dans cette espèce de transmission des Lumières, où la nature est quelque chose d'important, il y a une vision un peu déiste de la nature, mm-hmm, une sorte de divinité comme ça, ça, et en même temps, cette façon de la laisser libre. Et Georges Sand, c'est la quintessence de la liberté.
Le mot numéro un, c'est celui-là. C'est liberté.
Liberté. Ouais. Et d'ailleurs, elle dit, les plantes qui m'intéressent, ce n'est pas celles que l'homme élève pour ses besoins, c'est les plantes libres, les sans-grades. Elle dit, c'est les sans-grades. Ça, c'est magnifique.
C'est vrai qu'elle a revendiqué tout le temps donc, sa liberté sociale, sa liberté amoureuse, sa liberté littéraire.
Incroyable.
Sa liberté politique. À une période où, quand même, la place de la femme était proche du zéro. Hein, donc,
C'était pas proche, c'était zéro.
Avez-vous bien travaillé, mon cher Georges?
Je crois que oui. Je viens d'écrire une lettre à une jeune fille pauvre qui craint de ne pas trouver un mari. En m'exprimant comme un ami masculin, je peux défendre l'égalité des sexes devant l'amour.
Attention, ne vous égarez pas.
Mais l'homme, par égoïsme, tente d'étouffer l'intelligence de la femme afin de régner sur elle. Je dis égalité, non similitude.
Après, il y a quand même cette rupture, hein, parce que ça se passe pas exactement très très bien avec son mari. Elle va revenir quoi, vers 1836, 1840.
Oui, après le mariage, donc il y a ce procès de séparation de corps et de biens, où elle reprend possession vraiment de sa maison. Et donc à partir de ce moment-là, elle en fera un des tout premiers centres culturels de rencontre, parce qu'ici viendront tous ceux qui sont connus et reconnus dans ce 19e siècle foisonnant. Le jardin est un lieu, bien sûr, privilégié. Mm-hmm. Et on a des témoignages extraordinaires. Hein, quand Delacroix, dans une lettre, dit la musique de Liszt ou Chopin par les fenêtres, et se mêlait au chant des oiseaux et à l'odeur des roses, on imagine le paradis. Hein, on imagine cet Éden extraordinaire.
On dirait une sorcière dans sa caverne.
Une bonne sorcière.
Le premier verre sera pour l'arrivant. Venez, monsieur l'inconnu. Il faut boire, sinon vous n'entrerez pas. Buvez, mon bon monsieur. C'est le camarade Georges qui vous en prie. Georges Sand fait le punch avec autant de talent que ses romans, mon cher Chopin. Je vous conseille d'y goûter. On est une bande de bons garçons, nous autres. L'ami de Liszt est notre ami. Venez, Frédéric.
Quelques accords quand même de Chopin, hein, qui n'est pas en playlist, mais quel régal. Alors restez avec nous, parce que dans quelques instants, on va découvrir Georges Sand, écologiste, et je vais vous emmener aussi au moulin d'Angibault.
Ça tient du chat et de la rose, ça tiendrait au creux de la main, ça tient à presque pas grand-chose. Ça tient du chat et de la rose, pour des amours d'après-demain, ça rit de rien, ça prend des pauses. Ça ouvre les yeux sur les choses en caressant des enfants blonds d'un seul regard ou de talons. Ça tue l'oiseau, ça tue la rose. Ça tient du lait et de la mouche, ça tient la place d'un enfant quand ça s'effeuille et ça se couche. Ça tient du lait et de la mouche, ça tient son cœur au bout des dents, ça rit tout seul dans votre douche. Ça s'apprivoise ou se farouche et ça pleure selon le vent. Mais après ces six petits points, ça tient au coin de votre bouche. Ça met son cœur dans une lettre, sans mettre son adresse au dos, ça s'ouvre comme une fenêtre. Ça met son cœur dans une lettre, et ça pleure des gouttes d'eau, pour montrer son mouchoir peut-être. Ça tient vos rêves par les ailes, entre le rose de ses doigts, et ça s'échappe par les toits, tout en rêvant de chiens fidèles.
Gréco, la femme, deux femmes libres, donc Gréco et Georges Sand. Et donc on va repartir dans ce jardin. D'abord avec Georges Buisson quand même. Je tiens à vous signaler que Georges Buisson a écrit aux éditions de l'Harmattan Georges Sand et la Commune. Et puis Georges Sand en ses jardins. Et puis aussi vous avez un classique, hein, si vous voulez la découvrir, aux découvertes Gallimard, Georges Sand, un diable de femme. Donc on est dans ce jardin qui ne veut pas se faire remarquer, qui épouse vraiment le paysage. Un jardin au mouvement, hein, extrêmement cher à Gilles Clément, avec de la récupération de l'eau aussi de pluie, hein, pour pouvoir l'arroser. Et donc nous y retournons avec Georges Buisson.
C'est un jardin qui est extraordinaire, mais sans l'être. Ça, je trouve qu'il n'est pas apprêté. Et alors, ce qui est assez intéressant, il y a les pervenches aussi. Alors, petite anecdote, quand Georges Sand fait un voyage en Savoie, elle va chez Rousseau, visite Charmette. Et elle collecte une poignée de pervenches qu'elle a replantées là.
Bien sûr.
Et quand on voit les pervenches, on dit, tiens, ça vient de chez le père Rousseau.
Voilà.
Il y a quelque chose de très émouvant.
Ça vient de chez Rousseau.
Et puis elle avait cette vision quand même d'une nature vivante. Elle dit, le végétal pleure et saigne à sa manière.
C'est-à-dire que la nature existait pour elle-même et pas simplement, évidemment, pour l'être humain qui s'est
absolument.
Toujours plus supérieur.
Absolument, puis elle était vivante. Et quand elle collecte des herbiers, elle collecte juste ce qu'il faut pour essayer d'indiquer la traçabilité de la plante. Et dans une lettre à Victor Hugo, elle dit « Mes romans sont des herbiers, s'il vous plaît, j'en suis heureuse et fière ». C'est-à-dire que même sa manière d'écrire était imprégnée de son rapport à la nature. Et c'est quelque chose de très fort et qu'on ressent très étonnamment, quoi.
Donc c'est de l'écologie aussi avant l'heure, hein.
Je pense qu'elle était écologique avant l'heure. Elle a écrit un grand roman qui s'appelle Le péché de Monsieur Antoine, hein, où là c'est un débat profondément important sur la manière dont l'homme peut complètement saccager une organisation naturelle. Hein, et elle le dit d'ailleurs, elle dit on pourrait à la fois préserver l'utile et le beau. Et elle a une phrase aussi magnifique. Elle dit « J'irais bien faire une promenade après le dîner, mais j'aurais peur de déranger la nature. »
Il suffit pour ça d'un feu d'imagination.
Et nous avons quitté le Berry, on a quitté Nohant, et là on se retrouve où ça, à Barbizon. Bonjour Patrick Scheider.
Bonjour Denis.
Alors Patrick, donc vous avez écrit cet ouvrage aux éditions du Pommier qui s'appelle « Des arbres à défendre, Georges Sand et Théodore Rousseau en lutte pour la forêt de Fontainebleau ». Parlons maintenant quand même de Georges Sand, parce que sacré activiste et on peut le dire pionnière de l'écoféminisme.
Tout à fait. En fait, c'est grâce à elle que la forêt de Fontainebleau est devenue célèbre. Puisque en 1833, elle découvre un ouvrage qui a été totalement oublié, qui s'appelle Obermann, d'un romancier qui s'appelle Sénancourt. Et ce Sénancourt mettait en scène, c'était écrit en 1804, ce roman, un jeune homme, une vingtaine d'années, qui a des doutes existentiels, qui suis-je, que fais-je, quel sera mon avenir. 30 ans après, Georges Sand tombe là-dessus, elle fait un article dithyrambique, et tout d'un coup, les romantiques qui sont en quête d'imaginaire, hein, c'est un des nouveaux imaginaires de l'époque, se précipitent sur Fontainebleau. Elle met vraiment la forêt de Fontainebleau à la mode, en 1833.
Mais alors, ce qui est formidable avec Georges Sand, c'est qu'elle n'a pas peur de la forêt. Pendant très longtemps, les gens se disent « Ah oui, en même temps, c'est merveilleux, c'est magique, mais j'ai peur. » Elle, non, c'est une femme qui vient de la terre.
Tout à fait, c'est une digne héritière finalement de Jean-Jacques Rousseau, celui des années 1750, qui a fait une vraie révolution en France, qui n'est pas seulement la révolution française, mais qui nous a appris à aimer la nature. Avant, la forêt, c'était le refuge des brigands, des fées, que sais-je, c'était un endroit dangereux. Grâce à Jean-Jacques Rousseau, on a l'impression que la nature rentre en osmose avec nous, elle épouse nos peines, elle nous accompagne dans nos joies, c'est une nature sensible. Et Georges Sand voit vraiment la nature, comme aussi Théodore Rousseau, comme un être vivant qui respire avec nous, donc une alliée en quelque sorte.
J'avais partout des amis et des compagnons. Je savais dans quel champ, dans quel pré, dans quel chemin je trouverais Fanchon, Pierrot, Liline, Rosette ou Sylvain. Nous faisions le ravage dans les fossés, sur les arbres, dans les ruisseaux. Nous gardions les troupeaux, c'est-à-dire que nous ne les gardions pas du tout, et que pendant que les chèvres et les moutons faisaient bonne chère dans les jeunes blés, nous formions des danses échevelées. Ou bien nous goûtions sur l'herbe nos galettes, notre fromage et notre pain bis. On ne se gênait pas pour traire les chèvres et les brebis, voire les vaches et les juments quand elles n'étaient pas trop récalcitrantes. On faisait cuire les oiseaux ou des pommes de terre sous la cendre. Les poires et les pommes sauvages, les prunelles, les murs de buissons, les racines, tout nous était régal. Et c'était là qu'il ne fallait pas être surpris, car il m'était enjoint de ne pas manger hors les repas.
C'est-à-dire qu'elle reprend les critères de beauté végétale des peintres, mais elle va y ajouter donc les arguments de l'écologie.
C'est ça. Elle écrit une tribune dans le journal Le Temps pour défendre cette forêt qui est de nouveau menacée, puisque là, Napoléon III avait pris des mesures de protection dès 1861, donc ils sont les premiers au monde qui créent ici quelques mille et quelques hectares d'espaces protégés, donc 11 ans avant le parc de Yellowstone. Mais c'est de nouveau mis en cause, puisqu'on a bêtement déclaré la guerre à la Prusse, on a perdu en 1870, on doit 5 milliards. Or, à l'Allemagne, ce qui est énorme. Donc l'État, en gros, qui est redevenu une république,
ramasse des sous un peu partout et donc abat des parcelles pour ces fameux dommages de guerre.
C'est ça. En fait, il faut faire de l'argent, il faut valoriser en termes actuels. Et là, il y a un comité de protection artistique de la forêt de Fontainebleau qui est fondé, dont Victor Hugo, d'ailleurs, va signer une pétition qui circule. Mais Georges, elle va beaucoup plus loin. Elle fait plus que de signer. Elle écrit carrément une tribune, qui est la première tribune écologique en France, qui fait une douzaine de pages dans le journal Le Temps, qui est en fait le monde de l'époque. Et là, elle va beaucoup plus loin que les artistes, alors qu'elle-même est artiste, c'est ça qui est intéressant. Elle ne prend pas les choses sur le niveau de l'art, elle dit certes, il faut protéger les forêts parce qu'elles sont belles, donc c'est le critère esthétique qui avait été retenu par Napoléon III pour justifier les mesures de sanctuarisation. Mais elle dit, c'est bien plus que ça, ça dépasse l'art. Les arbres sont utiles, nécessaires à la vie. Elle dit que si on continue à abattre, non seulement à Fontainebleau, mais ailleurs les arbres, l'atmosphère va s'assécher, et que d'autre part, l'humain doit mettre aussi un certain frein à son appétit de ressources. Elle dit par exemple le charbon, il est très cher actuellement et puis un jour il s'épuisera. Et elle explique que l'industrie scientifique peine à trouver le remède à nos appétits qui sont vraiment inconséquents.
Oui, donc tout ceci, on peut le signer, c'est totalement actuel.
Totalement actuel. Elle va même jusqu'à un truc quand même assez incroyable, c'est anticiper sur ce qu'on appelle la géo-ingénierie, c'est-à-dire la capacité de modifier le climat en diffusant des éléments chimiques dans l'air. On peut faire beau ou faire pleuvoir à volonté. Et elle dit, incroyable, qu'elle espère qu'un jour les riches n'auront pas les moyens de pousser les nuages sur le ciel des pauvres, ou vice-versa. Et que la nature, elle défend le fait que la nature est un bien commun totalement indissociable de la notion de république. C'est-à-dire le bien commun gratuit pour toutes et pour tous, c'est la forêt, c'est la nature. Donc elle ne doit pas être accaparée par quelques-unes ou quelques-uns.
Comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau, et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau. Au vent des quatre saisons, tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur.
Ah, alors là, Annick Dussault, donc changement d'ambiance, parce que nous sommes au fameux moulin d'Angibault. Donc on est dans la Vallée Noire, toujours.
Oui, toujours dans la Vallée Noire, mais là on est vraiment au bord de l'eau, c'est la Vauvre qui coule, hein, qui alimente ce moulin à eau. Donc,
superbe roue. Hein.
Oui, très belle roue en bois, hein, voilà, qui est encore en état de marche d'ailleurs.
Alors, je ne sais pas s'il y a un meunier, si on fait encore de la farine, parce que c'était pour le blé, non,
c'est ça? Oui, c'était un moulin à blé. Ouais.
Alors c'est son lieu secret, comment elle le découvre?
Alors elle le découvre un peu par hasard, en se promenant à cheval avec ses enfants. Elle dit voilà, que c'est lors d'une après-midi de farniente qu'elle arrive ici, et que ce lieu très champêtre, très bucolique, avec l'eau qui coule, la rivière un petit peu plus au loin là dans la prairie, eh bien c'est vraiment le lieu champêtre par excellence, le lieu de ressourcement un peu avec l'eau, ça fait penser évidemment un peu à la matrice. Hein. Pour Georges Sand, vraiment, la nature, c'est toujours un lieu qui n'est pas dépravé.
Et toujours cette notion d'équilibre qu'elle souhaite avoir entre à la fois, bah oui, il faut quand même aussi se prémunir, faire attention, les inondations, etc. Et puis aussi de préserver la nature.
Oui, dans beaucoup de romans, elle s'interroge comment faire vivre les gens avec cette nature tout en la préservant et en leur permettant aussi de vivre. Et se propose aussi la question un peu de l'industrialisation déjà de son temps. Comment, voilà, avec un meunier, utiliser la force de l'eau tout en respectant la nature, parce qu'elle a bien conscience, c'est le début un peu aussi du capitalisme. Hein, et donc elle dit, le capitalisme coupe de la nature et détruit la nature avec l'argent, etc. La solution souvent qu'elle propose dans plusieurs romans, c'est de respecter de la nature, mais quand même de ne pas renier le progrès. Elle s'appuie beaucoup sur la science, l'étude, hein, mais surtout aussi de travailler en commun, le bien commun et le collectif, et c'est-à-dire de bâtir tout ça en concertation les uns avec les autres, voilà, de faire les choses ensemble.
La notion de partage lui est extrêmement chère. Je ne sais plus si c'est dans le Meunier d'Angibault ou ailleurs, où elle parlait de la propriété qu'elle décrivait comme étant du vol, carrément. Donc,
oui, c'est bien dans le Meunier d'Angibault. Oui, oui, elle va assez loin. Va, sûr, oui, c'est une femme très engagée dans ses idées aussi politiques. Elle est pour le partage. D'ailleurs, dans le roman Le Meunier d'Angibault, eh bien, les couples héros finissent par mettre leurs biens en commun et à les partager. Mais voilà, à partir du moment où tout le monde, j'allais dire, travaille. Parce que ça, la notion de travail et la valeur travail est forte chez George Sand.
Et ça, elle connaît, parce qu'elle était tâcheronne, elle aussi. Elle faisait. Ouais. Fallait qu'elle sorte de la copie. Hein,
donc, oui. Elle a tout au long de sa vie. Voilà,
on parlait de la pioche, d'ailleurs.
Oui. Alors, ça, on retrouve ça régulièrement dans sa correspondance. Piocher. Oui. Il fallait produire, écrire.
Mais très joli, un moulin. Hein. Oh là là, sympa là.
Mais oui, de temps en temps, la roue tourne.
Oui. Ouais. Ah oui, la roue tourne, c'est ça.
J'ai l'impression qu'à la fin de ma vie, j'ignorerai encore si j'adore ou si je hais les voyages. Mais il y a un démon qui me pousse sans cesse à voyager.
Madame.
Avez-vous de quoi nous loger, ma famille et moi?
Aussi longtemps qu'il vous plaira. À votre service, madame. Lieu de naissance, qualité?
Né en Europe. Qualité flâneur.
Bon. Flâneur. Bon. Domicile?
La nature.
La nature. La nature.
La nature.
La force, en fait, de George Sand, c'est d'être originaire d'ici, mais quand même d'avoir voyagé un peu partout et d'être allée très souvent à Paris.
Oui, elle avait un pied en Berry et un pied à Paris. Il y a beaucoup de personnalités qui naissent à un endroit et qui vont faire leur vie ailleurs. Ouais. Elle a toujours gardé cette singularité d'un pied à Paris et d'un pied en Berry. Et d'ailleurs, elle avait compris que pour aborder les grands sujets universels, il fallait toujours partir de l'infiniment singulier. Et cet infiniment singulier qu'elle s'est créé, eh bien, c'est ce Berry, quoi.
Oui.
Et ça, c'est formidable, parce que, je veux dire, c'est absolument pas un écrivain régionaliste au sens renfermé du terme. C'est-à-dire qu'elle se servait du territoire pour aborder des questions sociétales, pour aborder des questions d'émancipation, des questions politiques, des questions républicaines. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose, c'est une ouverture totale d'une œuvre sur le monde. Hein. Mais en partant de ce terre qu'elle aimait, hein, c'est ce petit bout de terre, ce jardin dans lequel nous sommes, la maison qu'on aperçoit là derrière les branches des arbres. Tout ça faisait que, effectivement, c'est une sorte de cénacle joyeux où elle a réuni du monde, où elle a confronté des idées. Et en cela, c'est un jardin de l'intelligence, c'est un jardin du partage, de la générosité, ça c'est évident. Elle a toujours été du côté de la vie, George Sand. Hein, elle avait un optimisme incroyable. C'est-à-dire que quand on a le moral à zéro, il faut lire George Sand.
George Sand dans ses jardins, George Sand donc, et la nature. Et puisqu'on a entendu Gréco, et je vous signale aussi que si vous pouvez la retrouver hein, sur le site Radio France, j'avais rencontré dans son jardin aussi Juliette Gréco. Merci beaucoup donc à Annick Dussault, merci à Georges Buisson. Et on se retrouvera donc nous la semaine prochaine. Et là, je vous emmènerai à la découverte d'une cabane, d'un affût aux oiseaux et aux animaux. Nous serons dans le département de l'Isère. Grand merci pour son mixage à Alex Olarewaju Otinowa, à Xavier Pessugia qui a formidablement colorisé cette émission, à Thierry Dupin qui a choisi les disques. Je vous retrouve sur Instagram, sur LinkedIn et sur évidemment Radio France et l'application avec les éditos. Si vous le souhaitez, il ne reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de dimanche.